La parole des contes avec Anne Wong.
Chères auditrices et chers auditeurs, bonjour, bienvenue au pays des contes. Alors nous avions fait différentes périodes autour du cheval. Oh, il y a encore plein de contes autour du cheval. Mais maintenant, je vous invite autour de l'âne. Alors, pour commencer, ici, nous irons dans les contes chinois. Et pour voir et découvrir un âne plus malin que malin, plus rusé que le singe et plus fort que le tigre. Voyez plutôt. Un âne s'était perdu dans les montagnes. Entouré de pins et de cyprès gigantesques, hein, vous voyez le paysage chinois qui se découpe dans les nuages, il cheminait sur un sentier obscur, seul et apeuré. Un tigre des montagnes, qui n'avait jamais vu d'âne auparavant, arriva à sa rencontre. L'inconnu, vu du tigre, c'est-à-dire l'âne, était bien costaud. Et le tigre s'en inquiéta. L'âne, voyant arriver un tigre, fut effrayé. Mais, vu que son rival avait l'air angoissé, il eut une idée. Il se mit à chanter.
« Oreilles pointues et jambes fortes, je suis le roi de la montagne la plus haute. Hier, je me suis régalé d'un léopard. Aujourd'hui, je me contenterai d'un tigre pour repas. »
En entendant ça, le tigre détala ventre à terre. Tandis qu'il courait à perdre haleine, il croisa un singe futé. Ce dernier l'interrogea. « Mon roi ? Pourquoi une telle panique ? » Le tigre lui raconta toute l'histoire. Le singe le rassura. « D'après votre description, il s'agit sans doute d'un âne malin. Permettez-moi de vous escorter pour dévoiler la vérité. » Après quoi, ils retournèrent ensemble sur le chemin. À leur approche, l'âne, immobile, se mit à parler d'un ton irrité.
« Oreilles pointues et pattes blanches, le singe rusé est fort en bouche. Il m'a promis deux tigres hier soir, mais je ne vois là qu'une seule proie. »
Croyant être dupé par le singe, le tigre décampa de rechef. Le singe s'écria derrière lui « Attendez-moi, mon roi, attendez-moi, attendez-moi !» Le tigre courut sur une longue distance avant de s'arrêter et de regarder en arrière. Il ne vit plus le monstre costaud et se sentit en sécurité. Il vit le singe qui arrivait et vida sa colère sur lui. « Ingrat, je te croyais plein de sagesse et j'ai toujours été bienveillant à ton égard. » Et comme dit l'âne, tu es un singe rusé, fort en bouche. À ces mots, il avala le singe d'une bouchée, sans lui laisser le temps de s'expliquer. L'âne malin fut désormais le roi de la montagne.
Donc,
Nous ne savons pas s'il est resté le roi de la montagne pendant longtemps. Et maintenant, nous arrivons dans Europe avec les contes d'Henri Pourrat. Et là, c'est une toute autre histoire. Y a-t-il vraiment des ânes? Vous verrez vous-même. Il y avait une fois un bon oncle en Hansbourg, le frère de l'aubergiste. Bricolant à l'auberge, jardinant au jardin, un peu pêcheur, un peu joueur de boules, le meilleur vieux gars du monde. Partout chez lui, disant son mot sur tout, ayant de la répartie en somme. Il lui arriva d'aller à Clermont, à la ville. Il vit le champ de foire, la fontaine pétrifiante, les cafés, les boutiques, se promenant de rue en rue. Enfin, il sut tout voir et tout comprendre pour le restant de ses jours. Il n'y eut qu'une chose qu'il ne put démêler. Sur la place de Joude, une espèce de grande boutique, des barreaux de fer, les noms des maîtres sur les carreaux, et à la montre, sur les étalages en somme, pas la moindre marchandise. Ma foi, comme il disait, pas plus gêné que gênant, il fait ni une ni deux, il entre. Il y avait là 3-4 gars qui écrivaient, et derrière un guichet, un vieil homme à lunettes qui empilait des écus près de piles de louis d'or. Tous lèvent le nez et le regardent. D'un regard qui le dévisageait de haut en bas et de bas en haut. Il ne s'en affole pas. « Salut bien !» leur dit-il, touchant du doigt le chapeau. « Et qu'est-ce que vous vendez ici, vous autres ?» Des tête d'âne, lui dit le vieux d'un air bougon, et tous partent à éclater de rire. Mais lui, sans se démonter, il répond « Ah, oh, c'est donc ça ! Je les vois pas, là, les têtes d'âne, enfin pour l'instant, mais faut croire que vous les vendez cher pour 3-4 que vous avez, tant de louis d'or et tant d'écus. « Hein, vos têtes d'âne ?» Il était une fois un bonhomme, chers auditeurs et chères auditrices. Et ce bonhomme, il clochait de la jambe droite. Et sa bonne femme, elle clochait de la jambe gauche. Par contre, comme ils étaient vieux tous deux et décrépits, l'autre jambe, la bonne, elle leur tirait. Ah, hein, chers auditeurs, vous savez peut-être ce que c'est, les rhumatismes. Et eux, ils le savaient. Et on ne prend pas de bonne qualité en prenant de l'âge. Le bourg était à une lieue de leur chez eux. Pour aller le jeudi au four à rail et le dimanche à l'église, il leur fallut acheter un âne. Le bonhomme alla garder cet âne le long des avec leurs 4 chèvres. La bonne femme, elle restait à la maison à faire la soupe, un peu de dentelle. Un soir qu'il s'était attardé, suivant les talus avec sa menue troupe, le bonhomme revenait à la soupe, les chèvres par devant et le bourri par derrière. Les chèvres s'arrêtaient pour mordre au buisson. L'âne, lui, voulait toujours happer quelques hautes touffes d'herbe et il se faisait tirer par la longe. Mais comme enfoncé en ses pensées, tout plan-plan, clopin-clopant, le bonhomme poussait devant soi les chèvres et derrière soi traînait l'âne. Allongés sous un pommier, au haut du tertre, deux chenapans qui n'avaient en tête que mauvais coups, mauvais tours, le regardaient venir, lui, ses chèvres et son âne. « Eh, si rogneux que soit le baudet, dit le premier, il ferait encore en foire plus d'argent que son maître. Après tout, fit l'autre, pourquoi ne pas mener cet âne en foire, comme tu dis? Me vient une idée, suis-moi. 4 pas derrière, et dès que j'aurai fait ce que tu vas me voir faire, file avec la bourrique. » Il dévale du tertre en prenant le détour. La nuit tombait, elle tombe tôt, passée la Saint-Michel. Et elle était sans lune.
Le bonhomme s'arrête une minute, pour ses raisons. Au coin de la haie, comme par là-bas, la cloche du bourg sonnait l'Angélus. Là-dessus, son âne se met à braire, mais de façon à réveiller tout le pays si le pays s'était endormi. Se contentant de donner une saccade à la longe, le bonhomme repart. Âne donc, feignant d'âne, viendra pas ? Et pressant le pas, tête ballante, il continue son chemin. L'âne venait. Le bonhomme l'entendait patouiller derrière lui dans la boue et les cailloux. Oui, l'âne vint sans trop se faire tirer, jusqu'à la maison, dans l'écurie. Passant la longe dans le trou, le bonhomme y fit un nœud, puis il se retourna. Mais alors là, d'abord il crut qu'il avait de la vision, ou bien qu'il avait de la berlue. Au bout de la longe, au lieu et place de son âne, un homme, une espèce d'homme, oh, d'assez mauvaise trogne, autant qu'on pouvait l'avoir, ainsi prise dans le bridon, un gaillard tout mal en ordre, avec des brins de foin dans la crinière, et qu'il regardait lourdement, comme en habitude. Le bonhomme, dans son saisissement, n'arrivait pas à tirer de son gosier une seule parole. Il ne put que reculer d'un pas et lever son bâton sur cet autre, hein, qui, lui tombant à genoux sur la litière, leva ses deux mains jointes. « Oh, monsieur, quitte le maître, oh, qu'il vous plaise, à présent de me prendre en votre grâce !»« Pas de grâce, canaille, mon âne, me le faut, ou je t'assomme de coups !»«
Votre âne, monsieur, quitte le maître, votre âne, mais c'est moi !»«
Toi, canaille, toi, mon âne, rends-le-moi vite, grand voleur !»«
Voleur ?
Ah, si je n'étais que voleur, mais c'est pire !»
Je suis assassin.
Ah, le mot porte à coup. Assassin ? Lâchant son bâton, le bonhomme fit trois pas en arrière.
J'ai bien dit assassin ?
Aubergiste, j'étais là-haut dans la montagne. J'assassinais les voyageurs passants. Et pour mes péchés, le bon Dieu m'a changé en âne. J'en avais pour 7 ans. D'un Angélus à un autre Angélus. Les 7 ans ont pris fin tantôt au coin de la haie quand la cloche a sonné. Elle a sonné la fin de ma pénitence.
Et moi alors ? Me voilà sans âne ?
Ah, monsieur quête le maître, c'est le sort. Laissez votre bâton. Si vous le ramassiez, je le sens, je ne me tiendrai pas de vous tomber dessus. Hein, plus d'une fois, vous m'avez mené rudement. Hein ? Quand du temps où j'étais un âne, à présent, prenez mon sort comme il se trouve et prenez garde à mon humeur d'assassiner le monde. Le bonhomme fit 3 autres pas en arrière, jusqu'à la porte, tournant les talons, tira la jambe si vite qu'il pouvait, y fila, il alla se rembucher dans le logis. Sa bonne femme trempait sa soupe. En grande hâte, tout à basse voix, il lui conta l'histoire. Mais elle avait d'abord fermé la porte à double tour. Elle lâcha la louche, renversa une écuelle. Oh, tant pis pour la soupe. Il était bien question de manger la soupe à cette heure. Tout de même, gémissait la bonne femme. Tant d'assassinats que cette canaille a dû faire. 7 ans de pénitence. Crois-tu que ce soit payé? Le bon Dieu ne pouvait pas lui en donner pour 9 ans ou pour 14. Eh, toujours est-il, marmonnait le bonhomme, que nous autres, nous n'avons plus d'âne. S'ils mangèrent un peu de soupe, ils ne lui trouvèrent pas bon goût. Et le lit n'était pas bien non plus, car ils ne fermèrent pas l'œil. Le lendemain, oh, quand il fit grand jour, le bonhomme se risqua de 2 pas au dehors. La porte de l'écurie était ouverte et l'assassin n'était plus là. Grogne que grogneras-tu ? Nous ne pouvons pas demeurer comme ça, nous faut acheter un autre âne. Par bonheur, ils avaient fait quelque argent de leurs chevreaux, de leurs chevrotons. Ils tirèrent le bas de laine de la paillasse, comptèrent pièces et sous, 60 francs. Ah, ce sera bien assez. La foire tombait à la ville 3 jours après, tout juste. Et ils trouvèrent une occasion de voiture, ou plutôt de barcel, de tombereau. Mais s'asseoir sur la baille à côté des petits cochons qu'on menait vendre, pour une fois, ils s'arrangèrent de cela. Sans être un assassin, chacun a bien sa pénitence dans sa affaire. Clopin, clopant, ils gagnent le marché aux ânes. Il commençait à acheter quelques coups d'œil, de droite, de gauche, quand un baudet entre les autres, lamentablement, se met à braire. Tourne la tête, l'attend vers eux. Il s'approche, ma foi. Et voilà que c'est leur bourrique. Le bonhomme la regarde une fois, deux fois, et sûr de la reconnaître, il lui fait signe d'un clin d'œil. Enfin, se relevant sur sa bonne jambe, « Ah, diantre de bandit !» lui glisse-t-il dans le tuyau de l'oreille. « Tu t'es remis à mes fers, et le bon Dieu s'est remis à te punir. Eh ben moi, je ne me remettrai pas à t'acheter. » Ah, tu voudrais revenir à la maison? Et un bon soir, je me retrouverai dans l'embarras comme tantôt. Ah, non, 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 non. Fais ta pénitence, mais va la faire chez qui voudra. Et voici un autre pour finir, où il est toujours question d'âne, mais vous allez voir encore comment un paysan, un métayer est bien rusé. Il était une fois un pauvre homme de campagne, métayer du château. La métairie n'était pas de ses bien grandes, bien bonne, des packages de cailloux où l'on voyait courir le cri-cri, des terres à sablon, fumée ou fumier d'alouette. Ce métayer n'avait qu'une fille. Et pour faire vivre sa fille, sa femme et lui, il s'en voyait beaucoup, cet homme-là. Les années ont passé, l'une poussant l'autre. Ceux de la métairie ont vécu. Puis sont venues à la file 4 années mauvaises. Le métayer s'est mis dans les dettes. Il lui a fallu des avances pour acheter les semences. Il a dû de l'argent au seigneur. Et ce seigneur était un homme souvent dans le vin, jamais dans la crainte de Dieu, un homme sans mœurs, qu'aurait dû vivre dans les villes. Là, on trouve des dames, comme dans la chanson. Dessus le pont, j'ai vu une jeune dame. Entre ses mains porte une fleur de rose. Dame, dites-moi, que voulez-vous de la rose? 200 écus et autant de la dame. Pour le seigneur, tout devait aller selon son bon plaisir. Les femmes, les filles dans le pays redoutaient son abord plus qu'elles n'eussent fait d'un serpent. Ils se riaient de leurs larmes. Autant qu'un petit canard des gouttes d'eau qui lui roulent sur l'aile. Leur rire, l'ordure, la rage. Le métayer a vu grandir sa fille. On la nommait Annette, jolie comme un petit bouquet. Et elle allait sur ses 15 ans. Voyant cela, lui, le père, il la menait plus rudement, en homme qui ne badine point. Toujours un mot à la bouche contre les filles. Fille, lentille, pain chaud, la ruine de Lousteau. L'Annette, il ne la laissait même plus aller à la branche morte, ramasser le bois mort. Et pour la remplacer au bois ou dans les terres, il avait acheté une ânesse, ce qu'il avait mis du reste un peu plus dans les dettes. Une bête vaillante comme l'abeille, réveillée comme 5 sous. Et il l'a appelée Annette, cette ânesse, comme sa fille. Peut-être pour faire pièce à la petite, en père bougon-bourrouille,
Peut-être. On se l'est demandé ensuite, parce qu'il voyait de loin venir les choses. Un peu de temps a passé. La nette fille ne sortait plus guère. Il lui fallait tout de même aller à la messe le dimanche, aux enterrements de la parenté, et à l'herbette, pour la biquette. Un jour, par un de ses hommes, le seigneur fait dire au métayer qu'il est à monter au château. Le métayer y va, se grattant le nez, penchant la tête, plus coxigné que coqueronnant. « Ah, te voilà !» lui fit d'entrer le seigneur. « J'ai fait regarder à ton compte. Tu me dois 160 écus. Je ne peux plus laisser traîner ça. Ou tu me les apportes, ou je fais main basse sur toi. »«
Mais seigneur, 160 écus, voulez-vous que je les prenne ?»«
Ah ça, ce sont tes affaires. Tu vas les mettre sur cette table. Sinon, ce soir, je te fais mettre en prison. »«
Seigneur, il y aura bien du délai ?»«
Plus de délai pour toi qui m'attends lanterné. Je dis à mes sergents de te jeter dans ma grosse tour. »«
Grâce, seigneur, je m'acquitterai, peu à peu. » »«
Je ne vois qu'un moyen pour toi de t'acquitter. Donne-moi ton Annette, qu'elle vienne en service au château. » »«
Mon Annette, qui m'est de si bonne aide ? Qu'est-ce que nous ferons sans elle ?»«
Écoute, assez de paroles. Je suis bon prince. Tu m'amènes ton Annette. Moi, je te remets ta dette et ta métairie par-dessus. »
Ah, ça vaut bien qu'on y pense. Vous me feriez un papier ?
Contre le service d'Annette, son service jusqu'à les cesser de m'agréer, je remets aux pierres de la borde basse et ses dettes et sa métairie pour qu'il en jouisse en toute propriété, sans empêchement aucun. Mais à la nuit, tu amènes l'Annette. Vous entrerez tous deux par la poterne. Tu la laisseras dans la salle basse, près de la grosse tour.
Dans la salle ?
Dans la salle.
Le métayer se fait remettre le papier dûment signé et redescend chez lui la crête haute.
Femme, j'ai passé un contrat avec le seigneur du château. Plus de dettes et la métairie sera nôtre.
Oh, comment ça ?
Annette, Annette !
La petite arrive, il leur montre le papier. Il leur dit ce qu'il porte.
Oh, voilà la mère aux 100 coups, voilà la fille aux larmes. On ne s'entendait plus dans la maison.
Mais dis, c'est pas vrai ! Tu as vendu la petite ?
Oh, moi, jamais j'irai. Je le hais comme un crapaud, ce seigneur à gros ventre. Plutôt que de monter au château, je me jetterai dans le puits. »
Sans s'amuser à leur répondre, le métayer va sur la porte, et là, sur un autre ton, d'une grosse voix, il crie de richesse
« Annette, Annette !»
Et l'ânesse arrive. Il jette l'œil sur Annette fille, le reporte sur Annette ânesse, et comme elle vient à lui, il lui flatte l'encolure.
« Ah, salut, salut, brave bête! Dis à ces femmes de te donner l'avoine, que ce soit même aujourd'hui une double ration !»
Sa fille, aussi sa femme, comprenant qu'il y a quelque anguille sous roche, le regarde, arrête les cris, sèche les larmes, et lui, sans plus un mot, prenant sa bêche, va donner une façon à un carreau du jardin où il veut planter les choux. Il attend la nuit noire, puis part avec l'Annette. Chers auditeurs, chères auditrices, vous doutez bien de quelle Annette il s'agit.
Au château, il trouve la poterne ouverte, il entre, puis fait entrer l'Annette à Annès, donc, dans la salle basse, referme la porte et s'en va.
Au bout d'un temps, le seigneur arrive à cette porte.
Pour quelques cris ou quelques vacarmes qu'on entende, dit-il à ses valets, je défends qu'on vienne et qu'on me dérange. Vous m'entendez ? Je le défends !
Les autres s'éloignent, vont passer la consigne à tout le monde, et ce n'est pas la première fois qu'ils reçoivent une consigne comme celle-là. Le seigneur donne deux tours de clé, pousse les verrous, puis, voyant remuer le rideau de l'alcôve, il chante « Annette, Annette, Annette !»
Oh bah ça, le malheureux, il voit...
Quoi ?
Il croit voir le diable, sous forme de quelques bêtes noires, à cornes dressées et relevées qui montraient en braillant, en beuglant, une denture épouvantable, un griffon, mais plus enragé qu'un âne rouge devenu frénétique, la bête Faramine elle-même, une bête hideuse, monstrueuse. Le seigneur, dans son épouvante, en a perdu le sentiment, il est tombé sans connaissance, le nez en avant, sur la dalle. La bête l'a piétinée, foulée, traînée. Il faut dire que l'Annette ânesse avait humé à la cheminée, placée devant la braise, un saladier de vin chaud, préparé par le seigneur pour enivrer la belle. Ah, ben l'Annette ânesse y avait mis le museau, hein, et elle avait trouvé ce vin chaud si bon qu'en trois goulets, elle lui avait fait un sort. Après cela, déchaînée, endiablée. Et donc, la nuit s'est faite de ce tête-à-tête. D'une part, le seigneur assommé d'un coup de sang, de l'autre, l'ânesse saoule qui savait plus que caracoler, ruer et braire. Trois fois, il a voulu se mettre sur son séant, se traîner vers la porte. Trois fois, d'une ruade, elle l'a recouché sur la dalle. Les valets ont bien entendu tout ce remue-ménage, un peu violent, mais ils avaient des ordres et ils ont obéi. Ils ne sont pas venus. C'est seulement au matin que le seigneur a réussi de ramper jusqu'à la cour. Une gardeuse de dindons l'a trouvé gisant sur le pavé, quasi sans vie. Qu'on me porte dans un beau lit blanc, je n'y resterai pas longtemps. Puis il a dit encore:
qu'on fasse main basse sur le métayer, le pierre, qu'on le pende haut et court.
Le métayer s'est défendu comme un beau diable. Ah, mais moi, j'ai mon papier qui m'innocente. Seigneur, je n'ai fait que vous obéir. L'ânesse, dans mon idée, ce ne pouvait être que mon ânesse qui est de si bon service, comme je vous l'ai dit.
Fait-on simple, a dit le seigneur.
Je l'ai amené, seigneur. J'ai fait tout ce qui m'était commandé de faire. Je suis blanc de ce qui est arrivé. Comme le pauvre agneau qui vient de naître.
Ouais, pauvre agneau, va donc. Tu mériterais d'être pendu. Mais tu me trouves à ton avantage maintenant que le chapelain est près de moi.
Le seigneur avait grand peur du diable après son épouvantable nuit. Et il se sentait guetté par la Camarde. De sorte que le métayer s'en est sauvé bret net. Il a pu retourner chez lui et faire vie qui dure avec sa femme, sa fille, sans parler de l'autre Annette, l'ânesse. Et le bonheur, c'est bien d'être dans sa maison, avec sa femme, ses enfants, se suffisant du bien qu'on travaille. Et voici, chers auditeurs, chères auditrices, quittons l'univers des contes et retrouvons-nous la semaine prochaine, car ça en vaut la peine.